Bonjour Mostafa Fourard.
Bonjour.
Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, on l'a dit, recteur de l'Académie de Toulouse et ce, depuis le 21 juillet dernier. Vous occupiez jusqu'alors cette fonction en Guadeloupe. C'est peu dire que vous arrivez dans un contexte compliqué, hein. Comment ça s'est passé, cette rentrée scolaire pour vous et puis évidemment pour les enfants, Mostafa Fourard? Ça fait une semaine maintenant que les enfants sont rentrés à l'école.
Écoutez, je pense que ça fait mieux passé qu'on pourrait le craindre, tout simplement parce que nous avons eu une préparation assez approfondie, une mobilisation de nos chefs d'établissement, directeurs d'école, des professeurs, donc, mais aussi l'expérience que nous avons acquise après le confinement. Vous savez qu'on a eu quand même beaucoup de retours de nos élèves sur les bancs de l'école, et cette expérience nous a aider à mieux préparer et à mieux gérer cette rentrée. Donc, pour le moment, les choses sont plutôt, je dirais, évoluent doucement, mais avec confiance.
Doucement, mais avec confiance. Alors, l'Académie de Toulouse, ça représente 528 824 élèves. Tous sont retournés sur les bancs de l'école, Mostafa Foura?
Oui, exactement. Et même, je dirais, plus que les autres années, on a eu moins d'absentéisme le premier jour, pour différentes raisons, les autres années. Mais cette année, je pense qu'il y avait un engouement, une envie de la part des élèves. D'ailleurs, on l'a observé. Moi, j'ai fait la rentrée scolaire ici à Toulouse avec le maire de Toulouse et Madame la ministre en charge d'éducation prioritaire. Et on a vu des élèves très heureux de se retrouver entre eux, des élèves aussi heureux de retrouver leurs professeurs, et surtout aussi des professeurs qui étaient très heureux de retrouver leurs élèves. Donc vous voyez, c'était une ambiance plutôt rassurante dans un moment anxiogène. On pouvait craindre la peur, il y avait de l'appréhension, mais elle n'a pas duré très longtemps.
Donc pas trop d'inquiétude de parents soucieux. Avec une petite semaine maintenant de recul, est-ce que vous rendez compte un petit peu d'aménagements qui pourraient être apportés, d'assouplissements ou au contraire, est-ce qu'il faut rappeler sans cesse les règles?
Non, bien au contraire, je pense qu'il faut absolument les rappeler. Vous avez raison, il n'y a pas d'assouplissement à envisager. Je pense que le port du masque en ce qui concerne les élèves des collèges et des lycées est devenu la règle. Et j'ai vu lors de mes déplacements sur le terrain que c'est une règle qui est très respectée, à la fois par les adultes et par nos jeunes. Comme vous le savez, dans le premier degré, il n'y a pas de port de masque obligatoire pour les élèves. Donc, du coup, aujourd'hui, la situation, je dirais, elle est plutôt maîtrisée dans les 7 départements sur 8. La tendance est plutôt inquiétante en Haute-Garonne. Vous avez rappelé le chiffre, hein, de nos élèves, à peu près un demi-million. Pour le moment, on compte 84 élèves qui sont touchés par le virus. Donc c'est peu, enfin, c'est déjà quand même beaucoup d'élèves, 84. Mais c'est peu par rapport au demi-million. Et donc c'est le respect des gestes barrières, c'est le port du masque qui fera qu'on limitera la propagation de ce virus et qui empêchera la fermeture d'écoles, de collèges et de lycées. Pour le moment, nous avons quand même 42 classes fermées dans notre académie et 33 en Haute-Garonne. Il faut qu'on évite d'aller plus loin. Et ça, c'est possible si chacun continue à respecter ces gestes barrières.
Avec l'enjeu quand même de tenir dans la durée. On pense notamment aux maternelles. Ils portent pas le masque, les petits, mais ils voient leur maîtresse avec un masque, avec toutes les questions autour des apprentissages quand même, hein, que ça pose.
Tout à fait. D'ailleurs, c'est un sujet en termes de communication avec les petits-enfants. C'est pour cela que d'abord, la priorité, c'est de commander des masques qu'on appelle inclusifs. C'est ce masque transparent qui permettent de voir donc le visage des professeurs pour les élèves malentendants dans les Ulysse.
Oui.
Pourquoi pas un peu plus tard pour les professeurs de classe de maternelle.
D'accord. Alors, vous avez parlé de classes, évidemment, qui ont dû fermer, hein. 84 élèves touchés, nous avez-vous dit. 42 classes fermées, 33 établissements ensembles scolaires concernés. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, monsieur le recteur, dans quelles conditions il est décidé de fermer d'abord une classe et puis un établissement?
Alors, en fait, dès qu'il y a un cas qui est détecté ou soupçonné, d'abord, des précautions doivent être prises. C'est-à-dire que dès qu'il y a des symptômes qui se déclarent, si c'est au niveau déjà de la famille, vaut mieux que les parents gardent l'enfant. Ça, c'est la première chose. Quand ça se produit dans un établissement scolaire, l'enfant est mis à l'abri, enfin, il est isolé de ses camarades, le temps de faire les investigations nécessaires, à savoir d'abord retour dans la famille pour éventuellement des tests. Et puis l'ARS, avec les autorités académiques, définissent les cas contacts pour voir est-ce qu'il y a eu des élèves qui sont contaminés, auquel cas, en fonction du nombre, on est amené à fermer une classe, une école, un collège ou un lycée. Pour le moment, encore une fois, nous avons procédé à des fermetures de classe, notamment dans le premier degré, hein. C'est uniquement dû au fait que, effectivement, les enfants dans le premier degré ne portant pas de masque, les cas contacts sont plus faciles à identifier. Alors que dans le second degré, à partir du moment où les élèves portent le masque, normalement, quand il y a un cas déclaré, les élèves portant le masque ne sont pas identifiés comme cas contacts. Donc, ce qui limite les fermetures de classe. Donc, précaution que doivent prendre les uns et les autres, c'est la vigilance, faire attention aux premiers symptômes qui se déclare. Mais je souhaiterais quand même préciser que cette rentrée n'est pas uniquement sous le signe
On va en
des
parler, bien
conditions
sûr.
sanitaires. Donc,
On ne va
on
pas
est
parler que de
allé
ça. On ne va
au-delà
pas
de ça.
parler que de ça. Mais
D'accord.
tout de même,
Je comprends,
les parents sont forcément un peu inquiets, hein. Vous avez parlé du nombre de cas. On comprend aussi qu'il y a beaucoup de procédures qui sont adaptées, peut-être même au cas par cas. Combien de cas dans un établissement conduisent à la fermeture de l'établissement?
Eh bien justement, c'est pour cela que vous ne trouverez pas cette information dans le protocole sanitaire qui est édicté par le ministère de l'Éducation nationale, parce que ça dépend exactement des situations particulières. C'est pour cela que l'ARS est mobilisée et une décision de fermeture d'une classe ou d'une structure, elle ne dépend pas que de l'Éducation nationale. Il y a l'ARS, il y a les collectivités qui sont concernées, en ce qui concerne les écoles, les mairies, pour le collège, les départements et puis pour les lycées. C'est la région. Et c'est une décision qui est prise par le préfet. Je le rappelle, ce ne sont pas les autorités académiques ou les élus qui prennent cette décision, mais le préfet de département ou le préfet de région.
Et alors, dans ces cas-là, parlons de façon très concrète et prosaïque pour les parents qui nous écoutent. Est-ce qu'il y aura un congé pour garder son enfant en cas de fermeture, des aides en tout cas pour les parents?
Vous savez que cette situation qui était valable pendant le confinement a changé. Donc, on revient à la normale. Donc, il n'y a pas de
Rien n'est prévu pour le
situation.
moment.
Non.
Rien de ce type n'est prévu. Les parents
C'est pour
devront
cela.
poser des.
C'est pour cela que la prévention est la meilleure réponse, donc d'arriver à éviter des fermetures de classe, de collège et de lycée. Donc on retourne à la situation normale. C'est le droit commun qui prime aujourd'hui.
Alors, monsieur le recteur, on va rentrer évidemment dans l'hiver petit à petit. Avant, ça sera l'automne, des changements de température, on en a eu déjà, hein. Des enfants enrhumés, il va y en avoir. Comment est-ce que vous allez faire la part des choses pour éviter de céder totalement à la psychose? Je vais vous dire les choses simplement. Je suis parent, mon enfant a le nez qui coule, tousse, je fais quoi?
Ben, ça, c'est vrai à l'école comme ailleurs, hein. Enfin, si votre enfant tousse, même s'il était en vacances, vous poserez les mêmes questions, c'est de vous adresser au médecin. Et le médecin peut répondre à une telle question. Moi, il ne m'appartient pas de distinguer les symptômes qui relèvent de la grippe ou du Covid. J'en ai aucune compétence, donc c'est le médecin qui peut répondre et il faut suivre les recommandations du médecin.
Sans remettre à son médecin, sans céder donc à la panique, on a bien compris le message. Vous semblez effectivement assez serein et mesuré. Mostapha Fourard, hein, je rappelle à ceux qui nous rejoindraient que vous êtes le nouveau recteur de l'Académie de Toulouse. On fait le point ensemble sur cette première semaine de rentrée. Par rapport aux 2 mois de confinement, hein, on a beaucoup entendu que selon les établissements scolaires et surtout le degré d'équipement numérique des familles, des élèves étaient sortis des écrans radars. Quelle réalité ça recouvre ici en Occitanie? Et puis surtout, qu'est-ce qui va être mis en place dans les prochaines semaines pour rattraper l'éventuel retard?
Alors d'abord, cette période de confinement a vu une forte mobilisation de nos enseignants. Donc il faut souligner et puis les féliciter pour cette mobilisation
Inégal
qui a
tout de même, hein,
permis.
pardon.
C'est
Inégal parfois, hein.
inégal, il faut le reconnaître, pour différentes raisons. Hein. On peut considérer aussi qu'il y a eu du côté des enseignants une fracture générationnelle aussi par rapport au numérique. On a
Exactement.
identifié des professeurs qui effectivement n'étaient pas à l'aise avec le numérique, mais ce n'est pas la majorité. Et ceux-là ont bénéficié pour certains déjà de formations continues à distance sur l'utilisation du numérique. Et d'autres sont en train de suivre des formations à partir de cette rentrée. Donc l'institution réagit rapidement par rapport à la formation des personnels. Il y a un autre sujet aussi, c'est celui de l'équipement informatique, mais vous savez que ça relève plutôt des collectivités. En ce qui concerne les collèges et les lycées, je crois savoir que, il y a eu plutôt un bon fonctionnement de l'ENT, l'environnement numérique du travail qui était installé par les différentes collectivités. En revanche, on a constaté une disparité en ce qui concerne cet outil dans le premier degré. C'est pour cela que j'ai souhaité, dès mon arrivée, interpeller les présidents des associations des maires pour travailler sur ce sujet. C'est avec les collectivités que nous pourrons avancer sur ce sujet. Il y a un autre aspect, c'est celui de la précarité numérique, parce qu'il y a des familles qui ne possèdent pas
Bien sûr.
Internet, qui ne possèdent pas d'ordinateur portable, et il faut que collectivement on apporte des réponses adéquates. Il y a eu des prêts de tablettes, d'ordinateurs portables pour ces familles, mais ça ne va pas suffire. Il faut qu'on invente autre chose avec les collectivités pour doter ces familles. Et enfin, il y a des assises du numérique qui vont être organisées dans notre académie et au niveau national aussi pour tirer toutes les conclusions des limites qu'on a observées dans la mise en place de la continuité pédagogique qui n'a pas reposé uniquement sur le numérique. Je rappelle qu'il y a des professeurs qui se sont dévoués pour remettre des cours directement à des élèves. Il y a eu d'autres moyens de communication avec les familles et les élèves, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le numérique prend une place prépondérante et il faut absolument qu'on avance sur l'équipement informatique pour nos établissements scolaires et surtout, encore une fois, dans les familles.
Et alors là, la photo de la situation des élèves, est-ce que vous voyez justement ces inégalités aujourd'hui en Occitanie dues à la période de confinement? Comment vous allez les mesurer ces écarts et essayer d'y remédier?
Ces écarts, ils existent en Occitanie comme partout
Partout
ailleurs,
ailleurs,
tout
oui.
simplement parce que, effectivement, il y a une grande partie de nos élèves qui s'est adaptée. D'ailleurs, certains en ont tiré profit. Hein. Il y en a qui ont réussi dans ce système-là d'enseignement à distance parce que ça leur convient davantage. Ça dépend des milieux, du milieu familial, ça dépend de plusieurs facteurs. Mais, effectivement, on a aussi eu un décrochage. Que vous avez appelé des élèves qui sont sortis des radars, c'est-à-dire des élèves qui ne sont pas restés avec leurs professeurs, en contact avec leurs professeurs. Et donc, dès cette rentrée, la consigne a été donnée aux professeurs pour évaluer les élèves. Alors, il y a des évaluations classiques, hein, dans certaines classes habituelles, ce qu'on appelle des évaluations repères, mais on a demandé à tous les professeurs de faire des évaluations de leurs élèves à tous les niveaux et le ministère a mis à leur disposition des outils pour ces évaluations, tout simplement pour identifier d'éventuelles difficultés rencontrées par les élèves et apporter une réponse individuelle. D'où un certain nombre de dispositifs qui existent déjà mais qui prennent de l'ampleur, à savoir de l'aide personnalisée. Et si je devais citer un seul dispositif, c'est le dispositif de voir fait. J'ai demandé au chef d'établissement de monter en puissance dans la mise en place de ce dispositif pour venir en aide à nos élèves, dans les collèges en l'occurrence, en ce qui concerne devoir fait, et les moyens suivront. C'est l'académie qui prend en charge les heures supplémentaires qui doivent être dispensées pour que nos professeurs puissent aider nos élèves en dehors du temps scolaire. Donc voilà, il y a le temps scolaire qui doit déjà être consacré aux fondamentaux, mais il ne faut pas simplement que ce soit du rattrapage, mais il faut continuer également à élever le niveau de formation de nos élèves. Et il y a le temps en dehors de l'école, dans le cadre des activités périscolaires, par exemple, où on peut continuer à apporter de l'aide à nos jeunes.
Un grand merci pour toutes ces explications, monsieur le recteur. Je rappelle donc que vous êtes recteur de l'Académie de Toulouse. Votre prédécesseur est resté un an, vous allez rester un peu plus, j'espère.
Bah écoutez, je suis resté 4 ans à La Réunion, 2 ans et demi en Guadeloupe, et puis je retourne dans une ville où j'ai fait mes études. Donc j'ai des
Alors,
amis,
on a...
donc je suis heureux d'être à Toulouse.
Eh bien, merci beaucoup. On aura l'occasion de se rencontrer une
Avec
prochaine fois.
plaisir.
Merci à vous.